Non, Arabie Zogini. Je sais pas si vous savez, sur les plateformes de films X, le... Ouais, c'est le mot beurette en fait. Et le mot beurette, il est archi négatif, finalement.
Bonjour à toutes et à tous, en route cet après-midi pour le numéro le plus drôle de l'histoire de Zoom Zoom Zen. Si je suis si affirmatif sur le fait que des barres de rire nous tendent les bras, c'est que le thème de notre émission est véritablement du pain béni pour le LOL. Un vivier inépuisable de vannes, toutes plus 2025 combatives que les autres, puisque oui, aujourd'hui on va zoomer sur la double peine des femmes de couleur, des femmes racisées, qui vivent à la fois le racisme et la misogynie, tout en devant constamment déjouer les accusations de victimisation. Zoom sur ce que Gad Elmaleh appelait la martingale de l'humour, l'arabisogynie. Que ce soit bien clair, ne souhaitant pas mettre en péril une carrière savamment construite, faite de compromis habiles, voire, diront mes ennemis, de compromissions honteuses. Ouais, bisous à mes amis européens. Je ne compte même pas essayer cet après-midi de faire des vannes autour de l'arabisogynie. Je laisse ça à Cyril dans son doux assort, qui sera certainement encore l'occasion d'entendre Michel Sardou.
Ouais, ce siècle.
Running gag, jamais éventé de la seule rubrique de cette émission qui résiste encore et toujours au wokisme. Non! En ce qui me concerne, cet après-midi, je laisserai le clown au vestiaire pour me concentrer sur mon métier de journaliste. Mais Quentin, ça va pas, Quentin ? Très bien, vous démarrez le quiz avec 17 points de pénalité. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Pas mal,
17.
Il écoute rien.
17. Du coup, tu peux ne pas jouer.
C'était sur journaliste, c'est ça ?
Et encore, c'est pas cher payé. Rire, oui. C'est pas encore cher payé. Bonjour Nesrine Slaoui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci pour cette belle intro.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes journaliste, autrice, réalisatrice de documentaires. On vous doit une série de podcasts intitulée Légitime, dans lesquels vous donnez la parole à celles et ceux qui ont tracé leur sillon en dehors des normes, un peu comme Cyril chez Body Minute. Et vous avez, sorti en octobre dernier.
On boycotte.
Ah, ça, il vient de la comprendre. Vous avez sorti
t'es
en octobre
bête,
dernier.
Mais t'es bête.
Oui, c'est mon métier, c'est mon métier. Vous avez sorti en octobre dernier Notre Dignité, un féminisme pour les maghrébines en milieu hostile aux éditions Stock, un livre dans lequel vous explorez cette notion d'arabisogynie dont on va parler pendant une heure. Juste le temps de vous présenter mes joyeux acolytes, à commencer par notre féministe à nous, la reine de la sororité, comme l'a surnommé ses camarades de classe au lycée, qui garde le souvenir d'une fille prévenante, sympa et jamais médisante. C'est tout elle.
Bonjour. Ça me correspond bien.
Bonjour.
Je les embrasse.
Quelle indignité.
Ils m'ont élu délégué à plusieurs reprises.
Oh là là.
Elle bourrait les urnes.
Bonjour Manon.
Peut-être. Bonjour à tous.
Manon, chaque après-midi, vous nous présentez quelqu'un qui fait bouger les choses.
La femme à l'origine du mot intersectionnalité, sans lequel arabisogynie n'aurait pas pu voir le jour.
Face à vous, Nesrine, il est un caillou dans la chaussure de votre théorie, vous qui avez déclaré dans un podcast que tous les hommes étaient de fait des complices du patriarcat. C'est faux, puisqu'on ne peut pas être complice du patriarcat et s'habiller au rayon femme.
Les coupes femmes pour hommes, certains jeans sont très chouettes.
Bah oui. Bien sûr, Quentin, une ouverture d'esprit qui nous rappelle la phrase que Manon s'est fait tatouer sur le bras, not all men. Bonjour Quentin, lui.
Ça va pas.
Ah, j'adore. Bonjour Mathieu.
Quentin,
bonjour tout le monde.
Chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. L'arabisogynie, ils ont vite compris de quoi il était question.
Pas vraiment. Ils étaient plutôt méfiants, à vrai dire. Ouais. Peur d'être à côté de la plaque, d'être maladroit. Le mot contracte à la fois arabe et misogyne. Forcément, les gens craignaient d'être sur un thème un peu touchy. Vos réactions, quand même, et vos témoignages aussi dans la rue, c'est dans la prochaine demi-heure.
Même pour mon auteur, le cinglé Gérald Darnaud, dont l'addiction au crack a depuis longtemps fait exploser tous les tabous, on ne peut pas décemment rire avec l'arabisogynie. C'est pourquoi le Zoom Zoom Test fera un pas de côté aujourd'hui, mais lequel ? Réponse aux alentours de 16h30. Juste avant 17h, Lucie Carbone nous rejoindra. Mais d'abord, Nesrine Slaoui, on va parler de cette misogynie spécifique vis-à-vis des femmes arabes. Vous dites que les femmes racisées sont invisibilisées, à la fois par le sexisme et par le racisme. L'expression double peine que j'utilisais, c'est la bonne, donc ?
Totalement. C'est compliqué de revenir au sérieux
après tous ces échanges. À vous, Nesrine, soyez sérieuse.
De remettre le sérieux dans cette conversation. Mais oui, c'était et c'est intéressant pour moi aussi de voir à quel point vous l'avez repris, ce mot, parce que moi, quand je l'invente, je me dis pas qu'il va autant résonner. Je sors là d'une rencontre littéraire à Lyon. Enfin, j'y étais hier soir, et c'est vrai que même les femmes concernées se sont vite réappropriées ce terme-là. C'est un peu aussi le cas avec l'arabe phishing. On était plusieurs femmes maghrébines à avoir dénoncé ça pour la télé-réalité, c'est-à-dire les femmes qui se font passer pour des maghrébines. Et l'arabisogynie, c'est un mot qui est très long, mais je trouvais pas autre chose pour raconter justement cette intersection, en fait, qui créait une discrimination supplémentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas discriminé en tant que femme et en tant qu'arabe, on est discriminé en tant que femme arabe dans son entièreté. Et donc, j'étais allée chercher pour écrire ce livre des choses dans la colonisation, mais beaucoup dans la pop culture aussi, parce que je pense que c'est peut-être l'endroit où il y a des clichés les plus vivaces et ceux qui peuvent nous permettre d'analyser justement cette intersection de deux identités.
On va en parler avec vous. L'émission des chiffres et des lettres avait Maître Capello, qui, à l'instar de Tonton David, nous a quittés trop tôt.
Oh, les rêves.
Pour disséquer...
Mais non, c'est même pas qui est Tonton David.
Quoi ? Vous savez pas qui est Tonton David, maintenant ?
Tonton David, bon, chacun sa route, chacun son chemin.
Ah ouais, ok.
Passe le message à ton voisin.
Bien sûr.
Regardez comme si on... merci. Voilà ce que je vis.
Mais je pense que c'est une question de génération, malheureusement.
Non, mais là, c'est la sororité, mais c'est le mainstreaming. J'étais obligée.
Non, mais en vrai, je connais la chanson, mais je connais pas l'interprète.
C'est la chanson de...
On en a dit dans la vie.
Gislain, quel talent.
Je connais la chanson et je ne connais pas Tonton David.
Ah, d'accord, c'est juste ça. Oui, bon, bah, c'est le chanteur qui chante cette chanson-là.
Un débat vraiment passionnant.
Il nous a quittés, Alors, je ne sais plus pourquoi on parlait de Tonton David, maintenant c'est trop loin par rapport à ce qu'on disait, mais pour disséquer les mots, en expliciter le sens, à Zoom Zoomen, on a Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Chaque après-midi, c'est vous qui nous racontez l'histoire de notre mot du jour. Alors dites-nous, l'arabisogynie, d'où ça sort ?
Découpons un peu. D'un côté, il y a Arabie qui renvoie à tout ce qui touche au monde arabe, à sa culture. Et de l'autre, il y a zoginie, misogynie, qui signifie la haine ou le mépris des femmes. Donc, en associant les mots, c'est facile, l'arabisogynie, une forme de misogynie spécifique aux femmes arabes. Je fais une parenthèse. Selon certains, cette arabisogynie ne concernerait pas que les femmes, mais tout ce qui se rapporte au monde arabe. Son histoire, sa religion et ses courants, ses traditions, voire même la politique des pays arabes. Fin de la parenthèse, je laisserai notre invitée nous dire ce qu'elle pense de cette vision plus large au fond du terme qu'elle a inventé. Car oui, d'où ça sort arabisogynie ? Eh bien de vous, Nesrine Slaoui. C'est un néologisme. Et dans une émission qui décrypte les nouveaux termes qui agitent notre société, les néologismes, eh bien on aime ça.
Et alors, quelle est la définition de cette arabisogynie selon celle qui en est à l'origine, Cyril ?
Eh bien je vais vous citer, puisque vous êtes là. La misogynie caractérisée contre les femmes identifiées comme arabes repose sur des stéréotypes incarnés par deux figures caricaturales et mises en opposition. La beurette et la voilée. Ce terme, il vous vient de misogynoir, encore un néologisme, tiens, celui-ci nous vient de la féministe queer noire Moya Bailey. Misogynoir qu'elle définit comme une forme particulière de haine dirigée contre les femmes noires dans la culture américaine, surtout dans la culture populaire et le hip-hop. En fait, ce que recouvre l'arabisogynie et le misogynoir, c'est l'intersectionnalité, Manon a commencé à en parler, une notion forgée en 1989 par la juriste Kimberlé Crenshaw. L'intersectionnalité, c'est comment le racisme, le sexisme, l'homophobie et d'autres formes d'oppression se renforcent mutuellement. Alors, qu'est-ce que l'arabisogynie doit à l'intersectionnalité ? Quelles sont les différences ? Comment s'entretient cette arabisogynie ? Comment y remédier ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Nesrine Slaoui, il faut peut-être commencer par là. Est-ce que dans votre vie, dans votre quotidien, vous avez éprouvé cette arabisogynie avant de la mettre en mots, enfin, avant de trouver ce mot ?
Toutes les heures, j'ai même envie de dire toutes les minutes, mais déjà juste par ma présence sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple très récent. Ouais. Ce week-end, j'ai fait une vidéo sur les incendies à Los Angeles et j'ai reçu le premier commentaire qui est cette femme maghrébine qui se pense intelligente retourne dans un clip de rap.
Très bien. Ah oui, donc on
voilà,
parle de très loin.
C'est assez.
C'est représentatif, ça. C'est pas.
En tout cas, ça c'est présent dans chaque moment de ma vie médiatique et de ma vie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme maghrébine décide de prendre la parole, de se montrer sur les réseaux sociaux ou dans l'espace médiatique, elle subit essentiellement des remarques qui la renvoient à cette identité-là. Donc c'est aussi fréquent que la misogynie pour les femmes tout court. En fait, c'est quelque chose qui est permanent et qui est quotidien.
Mais comment vous arrivez à distinguer ce qui relève de la misogynie classique quelque part et du racisme, parce que quand les deux se mêlent, on ne sait plus
Mais c'est pour ça que je le regroupe sous un seul terme. En fait, moi je pense que je suis attaquée en tant que femme arabe, c'est les deux en même temps, c'est le fait d'être
indissociablement.
C'est vraiment comme ça que je le perçois, parce que du coup, c'est si on me renvoie notamment à ces notions de clip de rap et etc, c'est qu'on me renvoie aussi à une forme d'hypersexualisation, et c'est ce qui est intrinsèque à notre condition de femme racisée, que ce soit aussi bien pour les femmes noires que pour les femmes maghrébines.
Là où c'est plus que la double peine pour les femmes racisées arabes, c'est la quadruple peine, parce qu'il y a ce double cliché de la femme, soit érotique, machin, hein,
soit soumise
avec le voile. On a vraiment les deux.
Et c'est exactement la réinterprétation du mythe de la mère et de la putain. C'est exactement la même chose qu'on a dans toutes les sociétés patriarcales et tous les pays sont patriarcaux à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a quand même cette distinction entre qu'est-ce qui est une femme respectable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je le vois, moi, c'est très intéressant sur TikTok parce que les hommes se sont transformés en Christina Cordula. C'est-à-dire que tous les jours, ils commentent alors si tu portes le voile, tu ne peux pas te maquiller. Si tu mets un legging, tu n'es plus une femme bien. On l'a vu avec Tana Land et toutes ces résurgences en fait, sexistes sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est une manière de... Ces deux incarnations-là, de la beurrette et de la voilée, c'est pour montrer justement qu'on nous range dans une ou l'autre catégorie. Donc moi, on l'a bien compris, je suis rangée dans la catégorie de la beurrette. Et on nous met en opposition avec l'autre, qui serait fondamentalement plus respectable, en tout cas qui correspondrait mieux au code de la société, parce que du coup, la femme qui porte le voile, elle va être renvoyée à nous, en disant, mais regardez, elles sont plus libres, elles portent pas le foulard, etc. Et donc, en fait, c'est une misogynie permanente qui vise à trier les femmes et à dire laquelle d'entre nous peut s'exprimer, peut exister, etc.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Notre dignité, un féminisme pour les maghrébines en milieu hostile, c'est le titre de votre livre, Nesrine Slaoui. Ensemble, on zoome sur le fléau de l'arabisogynie, un terme que vous avez vous-même forgé quand le racisme anti-arabe s'ajoute à la misogynie. Il faut les citer, les racines de ce terme, de l'arabisogynie. Vous parlez dans votre livre du fétichisme de la femme dite orientale héritée de l'ère coloniale. Ça remonte au colonialisme, en fait, cette vision-là.
Exactement, et ça remonte à même plusieurs formes de vision du monde où les femmes nord-africaines, parce que quand on parle des femmes nord-africaines, il y a aussi l'héritage amazigh, ont été effectivement vues comme des fantasmes sexuels, etc. Et en me penchant, déjà, on le voit en France, on a un vrai tabou sur la colonisation, on a peur d'en parler, on a peur que ça heurte les gens. Alors imaginez quand on s'intéresse à ce qui a été fait aux femmes dans ces pays-là, c'est extrêmement compliqué, donc de trouver des archives, etc. Je m'étais rendue à une exposition du Centre Pompidou sur justement le rapport au corps pendant la colonisation, et c'est là où j'avais découvert le quartier de Bouzbir à Casablanca, donc moi je suis marocaine, enfin je suis franco-marocaine mais je suis née au Maroc, et j'avais découvert ce quartier qui était un endroit où 500 femmes marocaines ont été prostituées de force dans ce qu'on on pourrait qualifier d'une sorte de Disneyland, la prostitution, et donc avec cette idée-là qu'il fallait qu'elles déambulent les seins apparents, les seins nus, et qu'elles étaient offertes aux hommes, notamment aux militaires qui œuvraient pour la colonisation, et tout l'imaginaire orientaliste qui a découlé de tout ça, c'est-à-dire le fait d'en faire des femmes vicieuses, des femmes voleuses de mari, toute cette... Puis cette hypersensualisation, en fait. C'est-à-dire que c'est un rapport au corps des femmes nord-africaines et même des femmes arabes, parce que ça s'est étendu aussi à la Syrie. Enfin, la France n'a pas colonisé que l'Afrique du Nord. Ça, c'est vraiment cette imaginaire-là de la danseuse du vent, de la charmeuse de serpent, et en même temps du corps dominable et qui est rendu objet, quoi. Et je vois bien encore la représentation aujourd'hui, notamment dans la télé-réalité. Enfin, il y a encore vraiment tout un continuum de fantasmes.
Justement, qui véhicule ces stéréotypes aujourd'hui ? Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est aussi les hommes et les femmes ?
C'est partout, en fait. Ouais, c'est notre société qui n'a pas fait, justement, puisqu'on a mis ce sujet-là sous le tapis, on ne s'y intéresse pas. Et c'est comme quand on met des lunettes, quoi, on décide de le voir pour ce que c'est, et on se rend compte que c'est partout et que c'est dans toutes les perceptions. Notamment, par exemple, quand on parle du maquillage, on sait que les femmes maghrébines, on a tendance à être jugées parce qu'on se maquille trop. Enfin, il y a vraiment un jugement permanent sur notre corps, notre façon de se présenter au monde. Et quand on se penche vraiment sur l'histoire coloniale, on se rend compte que ça vient tout simplement de ça, en fait. Ça vient pas d'autre chose. Et comme je le disais, il y a aussi un héritage amazigh qui est particulier, parce que de base, nous ne sommes pas des Arabes. Nous sommes des peuples nord-africains amazigh, avec donc des peuples qu'on qualifie de berbères en français. Et on a subi une arabisation qui aujourd'hui fait partie de notre... On est tous amazigh et arabes en même temps. Et ça a été effacé justement par cette orientalisation, en fait. Et le fait d'avoir créé un espèce de continuum, mais dans l'imaginaire collectif, de croire qu'une marocaine, c'est la même chose qu'une syrienne. Il y a vraiment cette idée-là parce qu'on dit monde arabe, on a toutes les mêmes histoires. Alors que moi, par exemple, je suis surtout africaine, en fait. Je suis née sur un continent qui est l'Afrique, et mon identité se caractérise vraiment par cette appartenance-là.
Est-ce que ces clichés dont vous parlez peuvent s'appliquer aussi aux hommes maghrébins, africains ?
bien sûr. Bah, je pense que ce qu'on vit en commun avec eux, c'est le racisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un racisme arabe en France et qui est aussi un truc qu'on a nous-mêmes intériorisé, c'est-à-dire qu'on se regarde nous-mêmes avec un regard négatif. C'est ça le propre du racisme aussi, c'est ce que Fanon disait, c'est qu'on l'a intériorisé. Et donc évidemment, même la masculinité arabe n'est pas une masculinité comme les autres. Déjà, c'est une masculinité qui est jugée beaucoup plus négativement que les masculinités classiques, c'est-à-dire qu'on a toujours peur que ce soit des sauvages, des barbares, etc. Et puis on le voit avec le discours maintenant du Rassemblement National, enfin l'extrême droite, cette histoire-là d'étrangers qui seraient plus violents. Enfin, on sait juste que c'est faux dans les statistiques, mais on voit bien que c'est une masculinité qui inquiète plus que la masculinité blanche. Donc évidemment, ça pose la question de qu'est-ce que c'est des féminités et qu'est-ce que sont les masculinités en parallèle. On ne peut pas penser la question de l'homme arabe sans penser la condition de la femme arabe en parallèle, en fait.
Le sous-titre du livre, c'est « Un féminisme pour les maghrébines en milieu hostile ». Quels sont les milieux hostiles pour les maghrébines ?
J'en ai listé plein, mais en fait, je pense que je voulais faire juste une rime entre maghrébine et hostile. Et puis je trouvais que le titre, alors c'est mon humour à moi, je trouvais qu'il était un peu drôle, mais je mets des guillemets. Enfin, je trouvais qu'il avait un truc un peu de ludique dans le titre. Mais en fait, c'était pour dire qu'il y a plusieurs espaces qui nous violentent de différentes manières. Comme j'ai parlé, les réseaux sociaux ont un truc de très frontal. Ce qu'il n'a pas, par exemple, dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, vous allez avoir des discriminations, mais qui sont beaucoup moins, en fait, violentes que ça. C'est-à-dire que dans le verbe, elles sont violentes dans les faits et dans le ressenti et dans ce que ça crée, notamment par exemple financièrement, etc.
Mais il y a l'effet de masse aussi sur les réseaux.
Il y a l'effet de masse et puis il y a aussi quelque chose de décomplexifié, en fait, surtout avec les annonces là, qui ont été faites par Zuckerberg et Elon Musk. C'est assez inquiétant dans la manière dont ça va encore plus libérer cette parole misogyne pour toutes les femmes, en réalité. Donc il y a plusieurs espaces, et j'ai voulu parler à la fois des réseaux sociaux, mais aussi des médias, le rôle qu'ont joué les médias dans les polémiques Abaya, la manière dont ça a été traité. Moi, ça m'a glacé le sang, parce que je suis profondément féministe, donc moi, le fait qu'on filme des jeunes filles des pieds à la tête pour montrer qu'elles sont habillées avec une robe longue, ça aurait dû scandaliser toutes les féministes de ce pays. Donc voilà, c'était surtout pour dire que chaque espace a ses dynamiques propres et qu'il faut les comprendre et que ça s'analyse aussi, quoi.
On continue d'en parler avec vous. Ce livre, c'est Notre Dignité, c'est chez Stock. À ma gauche, mi-homme, mi-femme, mi-enfant, mi-adulte, il est le premier homme sororal. Un adjectif particulièrement peu usité dans le vocable féministe, puisqu'il fait penser à Alain Soral, ce qui est quand même le dernier truc auquel tu as envie de penser quand tu évoques la sororité. Quentin, chaque après-midi, c'est avec... Il existe, hein. Vérifiez, sororal, ça existe. Cet après-midi, Quentin, avec votre légendaire ouverture d'esprit, vous avez tendu le micro aux passants.
Je longe la scène. J'avoue que le mot du jour n'est pas le plus simple, sachant que je suis un homme blanc, disons que je suis assez peu confronté au problème, mais j'arrête cette femme qui marche d'un pas pressé, jeune, dynamique, un manteau blanc, un bonnet noir en laine. Allez, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom ?
Sophia. Je suis étudiante en alternance dans le marketing et je bosse au siège Optique 2000.
Ils ont changé de slogan ? C'est plus Johnny ?
Ah non, faut arrêter avec Johnny là, ça y est.
C'est quoi maintenant ?
On veut rajeunir l'image.
Encore raté.
Et bah pas aujourd'hui. Ça sera pas aujourd'hui.
Ça fait peur quand même.
Un peu, ouais. Ça restera Johnny, ça Harley et ses lunettes. Bon, est-ce que Sophia connaît le mot qui nous intéresse aujourd'hui ?
Arabisogynie. La misogynie dans la culture arabe, je ne sais pas. Ah oui, effectivement, ouais, avec les termes beurette, etc. Ouais, j'en avais entendu parler. Je sais que j'ai des amis qui ont déjà vécu ça, dans les transports notamment, où elles étaient entièrement voilées et que des hommes les fixaient à insistance. Donc voilà, est-ce que c'est dévisagé parce qu'elle est voilée, ou est-ce que voilà, ça faisait partie des fantasmes du monsieur, mais... On vit dans un monde pas facile.
Et c'est ça, la double peine aussi. Eux deux sont potes, Inès et Quentin. À peine 30 ans, ils découvrent le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Non, arabisogynie. Non, ouais, j'ai peur de me faire piéger par le mot, en fait.
Ah non, je te jure que non.
Bah, je sais pas, peur. Misogynie de la communauté arabe. J'ai déjà écouté pas mal de podcasts à ce propos de ce sujet, mais je ne connaissais pas le terme, tu vois. J'ai entendu et j'ai aussi expérimenté aussi, donc moi en tant que femme maghrébine, du coup. Ouais.
Tu peux m'en parler ?
Bah, si tu veux, oui. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, sur les plateformes de films X, c'est le mot beurette, en fait. Et le mot beurette, il est archi négatif.
Et pour elle, certains hommes viennent avec un objectif.
Cocher une case de j'ai couché avec une femme maghrébine, ou j'ai fréquenté une femme maghrébine, ouais, ça c'est fait, mais tu seras jamais la femme qui présentera à ses parents ou à ses proches, mais tu seras juste assouvir un fantasme et après éventuellement le raconter aux collègues, tu vois.
Ça, vous l'avez vécu ?
Je pense, ouais. J'étais un peu dans le déni de ça, mais à mon avis, ouais. Si on dit les vrais termes, ouais, je pense que oui.
Elle parle aussi du voile. Hein.
Que du fantasme du voile.
Ah bah oui, bah ça évidemment, hein. C'est pas parce que tu es voilée que tu seras pas le fantasme de quelqu'un. Hein. Ça te protège pas de l'impudeur des autres, si tu veux.
Le voile ne te protège pas de l'impudeur des autres, c'est Inès qui le dit et elle poursuit.
Et ça, j'ai déjà entendu pas mal de fois. C'est cette meuf-là, elle est voilée, elle fait l'affichage et tout, mais je l'ai déjà prise, machin, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. Mais c'est vraiment le fantasme d'eux, tu vois. Ou alors, c'est dans la manipulation de « Ah, bah tu seras ma femme, donc du coup, tu peux te permettre de te dévoiler devant moi parce que tu seras un jour ma femme. » Alors que finalement, pas du tout, et c'est juste de la manipulation, tu vois.
Lui, il marche à toute vitesse. Je cours même un peu pour pouvoir le suivre. La doudoune avec la fausse fourrure au col relevé jusqu'aux oreilles, les lunettes fumées et les écouteurs sans fil dans les oreilles. Souvenez-vous de ce détail.
Tu peux marcher en même temps ?
Ouais, je peux marcher en même temps. Allez, bonjour.
Salut.
Quel est votre prénom ?
Mehdi.
Vous avez quel âge, Mehdi, vous ?
34 ans.
Vers où vous marchez comme ça ?
Là, je regarde les bonnets. Il fait froid un peu. Du coup, je cherche un bonnet.
Mehdi, c'est ma dernière réaction sur...
Arabisogynie. I don't know. Je sais pas. Vas-y, développe.
Je sais pas, quand on dit beurette, tout ça, tu vois ?
Ouais, c'est comme les femmes renois, c'est comme les blanches. C'est stéréotypé de partout, en fait. C'est pas que les maghrébines. Bah moi je pense que c'est vu que la femme est couverte, on veut voir ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que... C'est ça, pour moi c'est ça. C'est vu qu'on a besoin de savoir ce qui se passe, voir les formes, voir... Il n'y a pas à voir en fait, c'est couvert. Vous avez inventé un nouveau mot. Arabisogynie.
Et c'est pas moi, c'est Nesrine Slaoui. Il me raconte qu'il a une femme et deux enfants, qu'il ne comprend pas trop le sujet. Je sens aussi un peu de pudeur sur ce sujet-là. Avant de partir, je lui demande comment il explique ses fantasmes.
Si tu veux... La mentalité colonialiste française qui est encore d'actualité, d'où cette question...
Du fantasme.
Voilà. Alors, je te laisse.
Oui, bien sûr.
Je suis au téléphone en même temps.
Ah, en fait, il était au téléphone depuis le début. Je me demande bien avec qui il était en ligne, mais il ou elle aura appris votre mot, Nesrine Slaoui. Alors, le colonialisme et le post-colonialisme sont-ils à l'origine de ce fléau arabisogyne ?
Merci Quentin, vous en êtes pas si mal sorti que ça finalement.
Ouais. Hein,
ouais. Vous avez réussi avec brio.
C'était intéressant.
Une fois de plus. Une fois de plus.
Clients, mais c'est intéressant que ce qui ressorte, ce soit le fait qu'on identifie ça comme la misogynie des communautés maghrébines.
Oui, c'est un des premiers trucs.
Je suis aussi contente qu'on l'interprète comme ça. C'est-à-dire, c'est de dire que le patriarcat existe partout et forcément, il existe aussi dans notre communauté. C'est assez stigmatisé parce que justement, c'est ce que je disais, on essaie de l'exacerber en disant que les Arabes sont plus sexistes qu'ailleurs. Mais c'est intéressant que ce soit une interprétation qui sorte en premier, c'est-à-dire au lieu de penser la misogynie contre les femmes arabes, que ce soit la misogynie des...
Non, c'est chez eux.
Vous voyez la première remarque que je me suis faite, mais c'est intéressant parce que moi, mon but, c'est de nier ni l'un ni l'autre, justement. C'est de dire que c'est à la fois la misogynie contre les femmes arabes, mais c'est aussi la misogynie spécifique aux femmes arabes dans leur communauté respective.
Bon, ma rencontre du jour, c'est Inès qui témoigne, qui se confie. Elle parle d'avoir eu l'impression d'être une case qu'on a cochée. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, et puis c'est des témoignages qu'on a souvent reçus. Enfin, quand on parle avec les femmes concernées, et notamment celles qui utilisent les applications de rencontre, moi, c'est pas mon cas, mais c'est vrai que celles qui les utilisent en parlent souvent. Et c'est d'ailleurs ce que vivent aussi les femmes noires, c'est ce fait-là, justement, d'avoir cette fameuse case à cocher, même auprès des amis, en fait. C'est ce qui est, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est le fait de pouvoir se vanter auprès de ses potes en disant ben voilà, je suis sortie avec telle femme maghrébine. Et puis, en fait, c'est parce qu'il y a eu un construit depuis les années 80 en France autour, vous savez, des tests de virginité des femmes maghrébines, de ce truc-là, de ce sont des femmes qui se préservent jusqu'au mariage. Donc, en fait, il y a un peu le sentiment pour certains hommes d'être valorisés parce qu'ils sont la transgression, en fait, de la femme maghrébine. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, il y a eu plein de d'objets pop culture qui ont justement fétichisé cet aspect-là. Et donc oui, il y a forcément ça. Et puis, le fantasme de la femme qui porte le voile, c'est effectivement aussi... Ils le sont moins maintenant, beurrettes et femmes voilées, en tendance des sites pornographiques, mais ça l'a été dans une même période. C'est ce qui était assez intéressant, entre guillemets, à analyser, justement.
Mais justement, ces mots, pour vous, beurrettes, par exemple, sur un site porno, ça devrait être interdit, ça devrait être banni?
Ah, mais moi, je suis pour que beurrette, ça soit reconnu comme une insulte raciste, et que personne n'ait le droit de l'utiliser, en tout cas de manière frontale, comme une insulte, parce que c'est tout simplement violent à entendre. On ne se rend pas compte à quel point, nous, quand on l'entend, même médiatiquement, quand il y a des... je me rappelle, chez Dadati, quand elle avait eu... Quand un éditorialiste lui avait dit « c'est une beurrette qui a réussi », etc. La violence du propos, elle est terrible. Donc, moi, je suis pour, comme le N-word, qu'on arrive à un moment donné en France à dire que non, c'est raciste et qu'on ne doit pas l'utiliser, en fait.
Et sur la manipulation, parce qu'elle parle de ça aussi, le fait de faire croire à quelqu'un une relation pour la dévoiler, mais sans la présenter à sa famille, ça, c'est revenu aussi dans les témoignages ?
Alors, moi, non, mais je sais que sur TikTok, c'est des choses que je vois beaucoup circuler. Moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est la manière dont la parole se libère. Ouais. Et je trouve que les femmes qui portent le foulard, elles ont beaucoup de courage à être sur TikTok, parce que justement, elles doivent... En fait, les femmes qui portent le foulard sur TikTok, elles doivent affronter à la fois donc, l'islamophobie, le racisme, et à la fois leur propre communauté, notamment des hommes de leur propre communauté, qui soit leur disent comment porter ou enlever le voile, et qui, ou alors qui justement, les fantasmes en femmes respectables suprêmes, donc justement comme si c'était quelque chose à conquérir aussi. Mmh. C'est ce que disait aussi Mehdi dans le micro-trottoir, c'est cette idée-là de, ben justement, j'ai envie de voir ce qui se cache derrière le voile. Et c'était exactement une lecture coloniale, parce qu'il y a eu les cérémonies de dévoilement en Algérie en 1958, où justement c'était des cérémonies qui étaient organisées avec des femmes blanches qui dévoilaient les Algériennes, et avec tout un truc très festif. C'est une forme de libération, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des impensés et des histoires qui font partie de notre héritage commun, quoi. Et donc c'est intéressant de voir les résurgences aujourd'hui.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
17 points de pénalité. François Bayrou a presque plus de chances de se maintenir à Matignon que Quentin, lui, de remporter ce quiz. Et pourtant, comme Bayrou, il va tenter de gravir l'Himalaya. Jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz que je dédie aujourd'hui à celui qui m'aide à l'écrire. Une personne en réinsertion à qui j'ai choisi de tendre la main, de donner une deuxième chance alors qu'il perdait ses dents à force de trop traîner du côté de Stalingrad. Cette figure historique de la colline du crack, c'est Gérald Darnaud, qui s'est donc dit ce matin, pour égayer notre émission sur le fléau de l'arabisogynie, tiens, et si on faisait des vannes autour de la Zoubida ? C'était la première version que j'avais eue. Heureusement, je suis intervenu. J'ai commencé par lui arracher la boulette qu'il était en train de chauffer avec son briquet. Et je lui ai demandé, Gérald, j'adore Vincent Lagaffe, mais t'as pas une autre idée ? Si, m'a-t-il répondu dans un admirable élan de lucidité, un quiz dédié aux femmes connues, dont les origines arabes sont, elles, curieusement moins connues. J'ai dit banco, un terme de jeune pour dire que j'étais OK. Et attention, top, le tapis suspense par avant même que j'ai eu le temps de dire attention, top, cette émission devient folle. Top, auteur, compositrice, interprète, actrice, et productrice, je suis née en 93 en Floride. Autodidacte, j'ai appris à utiliser toute seule ma voix de soprano qui couvre 4 octaves, une note et un demi-ton, soit presque autant que Quentin lui quand il est bourré.
Tu es mon millésime.
Ah, je crois que je sais.
À chaque fois, ça me fout les poils. Artiste de l'année, on dit rien du tout, on attend que j'ai fini. Hein, attention. Artiste de l'année au American Awards en 2016, élue femme de l'année en 2018 par le Billboard Magazine. Mon 5e album, paru en 2019, me permettra d'égaler le record des Beatles avec 3 singles du même disque aux 3 premières place des chartes. J'ai longtemps cru être d'origine italienne, jusqu'à ce qu'un test ADN révèle mes racines marocaines et algériennes. Je suis.
C'est pas du tout ce que je pensais.
Alors, je vous donne des possibilités.
Ariana Grande, c'est pas
possibilité.
Ariana Grande.
Alors, je vais donner des possibilités. Oui. Ariana Grande, Lady Gaga, non, ou Lady Gaga. Claudia Capéa.
Ah, du coup, bah si. Ah, Ariana Grande,
j'avais dû dire Ariana Grande.
Bonne réponse de Quentin. Oh oui.
Vous êtes sérieux?
Vous n'avez pas attendu.
Vous avez dit, est-ce que vous avez une réponse? J'ai dit Ariana Grande et après vous avez dit, bah non, on enchaîne. Ah non, franchement, j'ai un point.
Il y a une révolte en régie qui dit que vous méritez le point, Manon. Très bien. Effectivement, ciao Italia pour Ariana Grande. Et
je le ferai quand même.
Oui, merci.
Pour la question suivante, j'ai demandé à ce qu'on amène un seau d'eau froide en régie afin que Cyril puisse se rafraîchir la nuque, car à la simple évocation de son nom, il perd tous ses moyens. Je m'y risque, Shakira.
Ah mais oui,
vite. Et merci. Et maintenant que la bête est calmée, revenons à Shakira.
J'ai pas compris.
On est dans le cerveau de Mathieu. Mais je vous assure.
On va pas refaire la bio de cette reine du micro qui a redonné un second souffle à Je l'aime à mourir. Et là, vous venez de me cramer ma question suivante, ce qui est très très gênant pour ma SACEM. Vous me rembourserez en antenne. Alors, effectivement.
Quoi ?
On n'a pas écouté, donc pose.
Si, vous avez entendu ce qu'a dit notre invité.
Non, moi j'ai pas entendu.
Vous n'avez pas entendu, alors ne le répétez surtout pas.
Est-ce que les auditeurs m'ont entendu?
Non, les auditeurs, oui, mais eux ils ne jouent pas. Donc
Je l'aime à mourir.
Effectivement,
c'est ça,
oui, vous venez d'entendre Je l'aime à mourir par Shakira. Mais la question est la suivante.
C'est des questions,
le monde entier est au courant de ses racines colombiennes, Shakira. Mais si la Colombie est le pays de naissance de Shakira et de sa maman, Jocelyne Shakira, son père en revanche est d'origine quoi?
Je l'ai dit, oh, mais même
il est...
Non,
il
est libanais. Mais non, on était en train de parler.
Il est libanais en même temps.
Il est égyptien. Oui, il est syrien, le père de Shakira.
Mais je peux pas gagner le point.
C'est. Ah si.
Si, si, bien sûr, je sais.
Si. Mais c'est quoi la.
J'ai gagné le point, mais laissez-moi jouer. On me laisse jouer, mais j'ai gagné le point.
L'invité s'invite dans le quiz.
Elle anime le quiz.
Et comme elle est sympathique, je lui dis oui, banco, oui. Effectivement, Shakira est aussi d'origine libanaise, comme les plus grands artistes, Mika, mais surtout.
Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps.
L'inoubliable Camaro. Attention, question suivante. Actrice américaine née en 1964, je suis d'origine britannique par mon père et syrienne par ma mère, d'où ma présence dans ce quiz. Ma carrière cinématographique n'est pas l'atout majeur de mon CV, avec des films comme Vengeance froide, En route vers son destin ou Renaissance d'un champion, des chefs-d'œuvre oubliés, à part peut-être de Thomas Croisière, petit ange du Zoom Zoom Zen parti trop tôt. Ce sont les séries qui ont fait ma renommée, ayant joué dans La Croisière s'amuse, Star Trek, Code Quantum, Seinfeld, Lois et Clark et surtout... Desperate Housewives. Je n'ai pas couché avec un basketteur français. Je suis.
Ah, non, oh.
Mais non, je n'ai pas couché avec. C'est pas possible.
Pardon. Ah, bah c'est Suzanne.
Terry Hatcher.
Suzanne.
Terry.
Ouais, c'est ça.
Terry Hatcher. Suzanne dans Desperate. Ouais, un rôle pour lequel j'ai décroché pas moins de 13 récompenses, dont un Golden Globe en 2006. Mais pour notre prochaine vedette mystère, let's go back to France. Je suis sûr. Pardon. Je suis ce qu'on appelle un enfant de la balle.
C'est l'émotion.
C'est l'émotion. Parce que moi, je sais de qui on parle. Je suis ému.
Okay, okay.
Je suis ce qu'on appelle une enfant de la balle, fille d'un contorsionniste. Mes grands-parents paternels étaient écuyers de cirque et tenancières de bordel.
Ah, mais je sais qui c'est.
C'est du côté de ma grand-mère maternelle, une artiste de cirque dont le nom. Edith Piaf. Oui, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Effectivement. Vous méritez pour la rapidité, me signale-t-on, de cette réponse, 15 points d'un coup. 15 points d'un coup.
Je remonte.
La môme qui avait donc des origines kabyles ou berbères, selon les sources.
Marocaine. Je crois qu'elle était marocaine.
Ah, moi j'ai lu kabyle ou berbère. Elle est marocaine aussi peut-être.
Ça peut être marocaine.
J'ai pas le détail sur marocaine, je ne sais pas.
Okay.
Kabyle ou berbère, en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est une magnifique victoire de Manon.
Oui, merci.
Mais ça c'est. Mais...
À rien.
3 à moins 2, monsieur. Je ne sais pas si les chiffres pourtant sortent à ce stade-là. La journaliste Nesrine Slaoui est notre invitée pour décrypter la notion d'arabisogynie, cette misogynie vis-à-vis des femmes arabes ou d'origine arabe. Nesrine, vous revenez dans votre livre Notre Dignité sur l'épisode très très commenté de Natacha Saint-Pierre, Inès Reg dans Danse avec les stars. On se souvient des noms d'oiseaux qui avaient fusé entre les deux femmes.
Écoute-moi bien.
Et pour vous, ça illustre surtout les biais racistes dont les médias sont imprégnés, qui condamnent d'office les racisés. Comment vous en êtes arrivée avec cette conclusion?
Parce que j'ai écouté, je me rappelle à l'époque, Inès Reg avait fait une longue série de stories sur Instagram qui avait été regardée comme, par beaucoup de gens comme, à ce moment-là. Donc, et moi, j'avais regardé. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'elle, au début, elle hésitait à dire les termes. C'est-à-dire qu'elle n'osait pas dire « je suis attaquée parce que je suis une femme arabe ». Elle essayait de prendre des pincettes en disant « bon, c'est un conflit lié à la production de Danse avec les stars », etc. Et puis, petit à petit, les informations commencent à sortir. On apprend que c'est Natacha Saint-Pierre qui a été mise à pied et pas elle, en tout cas, qui a été mise sur un temps de pause, etc. Et donc, c'était hyper intéressant parce que le premier article qui sort la condamne en disant Natacha Saint-Pierre a porté plainte pour menace de mort. Donc, on a l'impression qu'Inès Reg a fait quelque chose de terrible et on apprend qu'elle est plutôt victime en fait dans cette histoire parce qu'elle a subi une insulte sexiste, qui je ne vais pas la prononcer en l'antenne, mais c'était ce qui était intéressant. C'est-à-dire, et c'était le double enjeu pour moi, c'était de montrer que. Elle a été invisibilisée en tant que femme aussi. C'est-à-dire qu'on a dit qu'elle a subi du racisme, ce qui est potentiellement vrai, mais on n'a pas dit qu'elle a subi du sexisme. Et moi, c'était ça qui me touchait. Parce que
donc,
je me disais,
elle a subi de l'arabisogynie.
Exactement.
Très exactement.
C'est le moment où j'ai développé ma réflexion, parce qu'en fait, je me suis dit, tout le monde disait, même elle, dans sa défense, elle disait, mais j'ai subi du racisme, parce que je crois que son équipe, il y a des Noirs et des Arabes, en gros, elle a dit, ils ont eu peur qu'on soit violent, etc. Et elle a dit, j'ai été victime de racisme, mais moi, l'insulte dont elle a été victime, je peux le dire ou pas? Parce qu'elle a reçu quand même, écoute-moi bien, petite salope, salope est une insulte sexiste. Donc en fait, on n'a pas dit, Inès Reg est victime de sexisme. Ouais, et je me suis dit, est-ce que c'est parce que Inès Reg n'est pas une femme? Et c'est comme ça que j'en suis venue un peu à décortiquer mon analyse en disant, mais en fait, les femmes arabes ne sont pas vues comme des femmes, donc c'est une misogynie qui efface.
Les médias, la télé notamment, a sa part de responsabilité, selon vous, dans cette arabisogynie. Vous parlez de la télé-réalité qui instrumentalise les femmes maghrébines, particulièrement en les présentant un peu tout le temps comme des bimbos.
Exactement. Et c'est un stéréotype que même des femmes blanches ont vécu. Hein. On pense à Loana, qui a été une des premières à vivre ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des figures aux alentours de 2014-2015, Nabila, Ayem, etc., qui sont devenues très médiatiques et qui ont propulsé la télé-réalité à une autre échelle, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu extrêmement mainstream. Et c'est ce que me disait aussi Valérie Ré-Robert, pardon, qui analyse la télé-réalité, qui dit c'est très bizarre la télé-réalité parce que c'est pas frontal, on ne vous dit pas on vous prend parce que vous êtes une femme maghrébine, mais on vous prend parce que vous êtes une femme maghrébine.
Oui, c'est pas dit.
C'est pas dit. Et donc du coup, plein de femmes blanches se sont mises à vouloir ressembler à des femmes maghrébines par la chirurgie esthétique, par les UV, etc., par évidemment Dubaï, d'essayer de surfer sur tout.
C'est l'arabe fishing.
Exactement, tout l'imaginaire orientaliste.
Est-ce que c'est pas venu aussi des Kardashians?
Lara Fishing. Ils n'ont pas popularisé ça.
En fait, les Kardashians sont plus accusées pour le coup de faire du black fishing, c'est-à-dire de surfer sur le métissage avec l'identité noire, plutôt parce que vu qu'elles sont arméniennes, si on pense en termes de théorie de sciences sociales, elles appartiennent à la région Swana, donc Southwest Asia et North Africa, donc en fait elles sont aussi des minorités ethniques. Donc c'est vraiment tous les débats qu'on a dans les milieux, comme on dit, woke, c'est est-ce que les Kardashians sont des minorités ou est-ce qu'elles sont elles-mêmes des privilégiées. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, je sais que Kim, à un moment donné, avait mis le fameux costume de la princesse Jasmine, et je sais que ça avait fait polémique. Il y a aussi, en France, elle est identifiée comme maghrébine, Kim Kardashian, parce que son phénotype ressemble à celui des phénotypes des femmes nord-africaines. Et donc, du coup, il y a eu une association. Et par exemple, moi, je sais qu'en quand, vraiment 2015, 2016, etc., on nous reprochait, les femmes maghrébines, de vouloir ressembler à Kim Kardashian. Et on disait tous, mais c'est elle qui nous ressemble.
On ressemble pas à l'inverse.
On est brune avec des gros sourcils. C'est juste, on est né comme ça, en fait.
Donc, on n'a rien fait.
Quentin, vous parlez aussi de Mila Jasmine, pardon, star de la télé-réalité. De sa sœur, Safia Alba, qui ne s'appelle pas du tout comme ça. Mais qui sont ces jeunes femmes?
Et Marie-Charlotte, je crois, il me semble.
Et alors, pourquoi elle se grime?
C'était hyper intéressant d'écouter Safia Alba au micro de Sam Zira, justement, qui est un journaliste de télé-réalité, qui les interview souvent, et qui dit « Mais non, mais on choisit tous des pseudos, comme si c'était totalement anodin de choisir Safia Alba. » Et alors, moi, ce qui était très inquiétant avec Safia Alba, c'est le fait qu'elle est, qui s'appelle du coup Gwendoline, qui est appelée en réalité à voter pour le RN. C'est-à-dire qu'elle s'appropriait une identité comme un costume, en disant ben, « je suis une femme nord-africaine et je vous appelle à voter pour l'extrême droite ». Donc on voyait bien la problématique, en fait.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Et pour aller plus loin, Manon, l'autre personne à suivre.
Je vous présente Kimberley Williams Crenshaw. Elle a 65 ans, elle est américaine et c'est grâce à son féminisme engagé que l'on doit le terme intersectionnalité, un terme sur lequel le mot arabisogynie n'aurait probablement jamais existé. Kimberley Crenshaw est diplômée en droit de l'université d'Harvard. Elle est professeure à la prestigieuse Columbia Law School de New York. Je vous lis la définition que donne le dictionnaire d'intersectionnalité. C'est une notion qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de discrimination dans une société. Elle commence sa carrière de professeure de droit en 89 qu'elle parle pour la première fois de ce terme. Elle publie un article académique intitulé « Démarginaliser l'intersection de la race et du sexe ». Elle y explique que les systèmes d'oppression sont imbriqués et elle prend son exemple personnel de femme noire. Elle explique subir une forme unique de discrimination qui ne peut pas être comprise uniquement en termes de racisme ou de sexisme pris séparément, ce que vous dites. Elles sont marginalisées parce qu'elles sont des femmes et qu'en plus elles sont noires. Ce n'est pas la même chose qu'une femme blanche victime de misogynie ou qu'un homme noir victime de racisme. Plus largement, elle dit que l'intersectionnalité a pour vocation d'examiner comment les différentes identités sociales, telles que la couleur de peau, le genre, la classe sociale, la sexualité, le handicap, se croisent créant des sous-couches de discrimination. Kimberley Crenshaw a d'abord développé cette théorie pour mieux comprendre les expériences des femmes noires, on l'a dit. C'est pour ça qu'on entend aussi beaucoup parler du féminisme intersectionnel aujourd'hui, qui prend donc en compte les discriminations vécues par les femmes en tenant compte de leur singularité. C'est dans ce contexte que de nouveaux mots sont apparus. Aujourd'hui, vous parlez d'arabisogynie, Nesrine Slaoui, pour parler des discriminations et stéréotypes envers les femmes arabes. Mais on l'a dit, il y a aussi le terme misogynoir qui décrit une misogynie dirigée spécifiquement envers les femmes noires. Ce concept d'intersectionnalité a aussi été repris par certains hommes pour parler de soi-disant discrimination envers eux de la part des féministes. Kimberley Crenshaw a remis les pendules à l'heure en disant qu'il ne s'agissait pas de politique identitaire sous stéroïdes et que l'intersectionnalité n'est pas une machine à faire des mâles blancs les nouveaux parias. C'est toujours bien de le rappeler.
Merci Manon. Nesrine Slaoui, on sait que parfois il y a des accords, des guéguerres au sein même du féminisme. Est-ce que pour vous, le féminisme d'aujourd'hui et de demain, il est forcément intersectionnel?
Il peut être que ça, effectivement. Il peut prendre en compte la pluralité des identités, même LGBTQIA+. Enfin, vraiment, c'est la seule démarche possible, c'est de prendre en compte la moindre discrimination, parce que ça nous permet d'avoir des vraies lunettes pour regarder la société. Et effectivement, il y a même des manipulations. On le voit, je sais que j'ai un peu une obsession avec l'extrême droite, mais parce que je suis assez inquiète de la place qu'ils prennent dans notre société. Et il y a une manipulation du féminisme par l'extrême droite, c'est-à-dire une volonté de créer un féminisme qui ne s'adresse qu'aux femmes blanches, et aussi de dire, encore comme je l'ai dit, c'est-à-dire le sexisme c'est ailleurs, c'est les autres, etc. Donc c'est nécessaire, et je pense même que c'est salvateur de le penser comme ça, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je pense qu'il y a tout intérêt intérêt à le penser en intersection. Et ça, c'est aussi une posture de, comment dire, d'humilité pour apprendre des autres discriminations. Moi, par exemple, la transphobie, j'ai reçu aucune éducation à l'école là-dessus. Grâce à Talma Desta, qui a écrit un livre super qui s'appelle La fin des monstres, j'ai appris ce que c'était. Donc oui, c'est essentiel.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
C'est un rédacteur en chef adjoint sur la sellette que nous retrouvons à présent. Depuis que son N plus 1 a convoqué hier une réunion de crise de l'état-major de Zoom Zoom Zen, composé donc de Cyril Lacarrière et c'est tout, à l'ordre du jour cette question. Peut-on encore faire confiance à quelqu'un qui nous annonçait mardi matin que la réforme des retraites allait sauter et qui, une fois que Bayrou a annoncé qu'elle ne sauterait pas, s'est empressé de dire que c'est précisément ce qu'il avait annoncé. Pour Cyril, la réponse est non. Pour moi, qui garde quand même un tout petit droit de regard sur cette émission, c'est voyons voir, laissons-lui une dernière chance. Bonjour Pierre Courat.
Merci beaucoup. Mathieu.
Bonjour. Pierre. Pierre.
Hermione Granger.
C'est très bien, c'est très bien. Et il est à la fois Hermione Granger et le père d'Harry Potter. Le sosie physique du père d'Harry Potter. C'est beaucoup pour une seule personne. C'est dingue. C'est dingue, nous dit notre invité. C'est validé. Pierre, comme chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et aujourd'hui, l'arabisogynie, mélange de racisme et de misogynie envers les femmes identifiées comme arabes. Un phénomène dont nous a parlé Nesrin Slaoui, notre invitée. Elle est journaliste et elle s'est penchée sur les particularités de cette discrimination. Elle nous a appris qu'à l'instar de la notion de misogynie noire, l'arabisogynie trouve son origine dans des clichés racistes, des fantasmes orientalistes issus de l'époque coloniale et qui se retrouvent aujourd'hui dans la double image supposée que l'on se fait des femmes arabes, la beurette et la voilée, pour parler vulgairement, femmes fétiches dans un cas, femmes soumises dans l'autre, des représentations qui effacent clairement leur personnalité dans tous les cas, mais une vision archaïque, stéréotypée qui se retrouve aujourd'hui, d'après notre invité, dans les médias, la télé-réalité en particulier. Pour Nesrin Slaoui, la femme arabe est instrumentalisée, utilisée pour l'image qu'elle évoque dans l'imaginaire de ceux qui parlent du temps béni des colonies. Une double peine pour ces femmes. C'est aussi une illustration de l'intersectionnalité, une notion qui regroupe les discriminations multiples envers une personne ou un groupe de personnes, ici les femmes et les arabes, de la misogynie et du racisme dont est victime notre invité au quotidien comme des milliers de femmes. Et paradoxalement, surfer sur des clichés sans s'en subir les conséquences racistes, ça existe aussi, ça s'appelle l'arab fishing, ou comment des femmes cherchent à ressembler à des femmes arabes. On retrouve ce phénomène dans la télé-réalité et les réseaux sociaux, mais ça, c'est une autre histoire.
Sur le fond, c'est bien, Courad, mais sur la forme, vous régressez. 1.37. On est loin de la minute. On est à 1.37, Courad. 1.37. Aïe. Pour terminer.
En deçà de la minute.
Pour terminer. Ne dites pas n'importe quoi. Pour terminer cette émission, on retrouve une humoriste qu'on n'a pas encore vue en 2025, Lucie Carbone. C'est à vous.
Oui, coucou, ça va tout le monde? Bon, écoutez, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, donc bonne année. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en termes de réseaux, moi, cette année, je m'étais dit de faire plus de sport. Étant donné le sujet, j'ai l'impression d'avoir été entendue. Donc, merci de vos encouragements. Alors, l'arabisogynie, c'est un concept de vous, Nesrin Slaoui, pour décrire l'alliance du racisme et du sexisme. Alors, c'est vrai qu'à la base, moi, je voulais faire des blagues et pas eu d'immersion dans un discours de Bruno Retailleau. Moi, j'ai déjà eu la grippe, donc c'est vrai qu'un nouveau coup de froid d'un point de vue mutuel, ça m'arrange pas du tout. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, one life. Alors, ce que j'ai compris de vos écrits, Nesrin, c'est que quoi que fassent les femmes arabes, ça va pas. C'est nine. S'il y a le voile, faut se détacher de la religion. S'il n'y a pas voile, c'est bien de s'intégrer, mais pas trop non plus. Mollo, tout doux bijou. C'est-à-dire que c'est plus une identité. C'est un escape game, sans clé, sans solution, sans sortie de secours. Ni bouteille d'eau, ni carte GPS, ni même vue sur la grande ours. Bref, c'est ce qu'on appelle la cata. En somme, l'arabisogynie, donc, c'est donc que je trouve un rond-point de discrimination où les femmes arabes se font tellement rouler dessus que c'est plus des piétonnes, c'est carrément la route. Et encore, on trouve carrément le moyen de le reprocher les nids de poule. Et ça, c'est pas cool. Alors t'imagines quand même, je me dis, la rage de vie qu'il faut pour être une femme arabe lesbienne, option non-binaire. Là, vraiment, c'est carambolage social. Même le rond-point, il te regarde, il te coince entre deux hortensias. Franchement, décide là parce que les autres là, tout le monde, personne n'a compris. Et donc pendant qu'il y a des gens qui galèrent, y a ceux qui regardent la vie en loge. Voilà, les Donald Trump, les Elon Musk, les Zuckerberg, le gang des hommes blancs puissants. Et attention, c'est pas une critique. Pour l'instant, c'est juste un constat amiable. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils auraient le pouvoir de nous aider dans la galère, mais en ce moment, ils se font des caresses. Des guili-guili. D'ailleurs, c'est leur grand paradoxe. C'est-à-dire qu'ils supportent pas les LGBTQIA+, mais entre eux,
ça devient coquin. Oh yeah, hello, Ellen. Oh, what you're doing, it's amazing. I know, Mark. I know what I'm doing, it's amazing. Et au milieu, t'as Donald Trump. Oh, big boss, yeah, call me daddy. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont tellement occupés que Meta et X, ça devient limite un EHPAD un 15 août, partant de canicule, secteur des Céliles. C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux, ça passe au crème, ça passe au crème. C'est fini la modération. Le personnel soignant a lâché l'affaire à tout moment. Ça peut péter devant une vidéo de Nabila. Rentre dans ta cuisine, nous dit Clovis Duperche, 82 ans, ancien chauffagiste. Moi, j'aurais plutôt dit rentre chez toi, nous dit Marie-Paul, cette biterroise de 75 ans, dont la profession a toujours été mère de famille de ses 15 lévriers afghans. Alors, tout ça pour dire que les identités plurielles, j'ai l'impression qu'on sait pas faire. Hein. Tu sais, ça doit absolument être une petite fusilie, alors que l'identité, ça peut être un bon plat de lasagne. Hein. Bon, c'est un peu conceptuel, mais j'aime beaucoup. Et moi, c'est vrai que je trouve ça cool hein, de pouvoir être plusieurs choses. Hein. Je trouve ça très chouette de pouvoir être plusieurs tout seul. Et c'est même d'ailleurs mieux que d'être tout seul ensemble. Pour réfléchir, mais et c'est d'ailleurs peut-être d'ailleurs ce que je nous souhaite pour la nouvelle année, parce que je vous rappelle que les étiquettes ça gratte et les ronds-points ça tourne en rond.
Merci beaucoup Lucie Carbone, on vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen, également sur les planches avec votre spectacle au grand point virgule. Vous aimez pas la manière dont on dit sur les planches, planches. C'est mon côté qui luxe. On vous retrouve sur les planches.
Et moi je dis
tout de suite Léon Zitrone. Bon alors bref, au grand point virgule et toujours en tournée en France évidemment. Lucie, merci beaucoup. Merci Nesrine Slaoui de nous avoir éclairé sur l'arabisogynie, un terme, je rappelle, que vous avez forgé, et je rappelle votre livre, Notre Dignité, un féminisme pour les maghrébines en milieu hostile. C'est disponible chez Stock. Zoom, zoom, zen.